je vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction de ces journées, mais je voudrais simplement dire que pour ce qui concerne la fédération, c'est dans nos objectifs statutaires d'être dans l'accompagnement des changements, dans l'accompagnement de tout ce qui fait la vie des professeurs de français. Et bien sûr, depuis quelques années, nous avons mis en route un certain nombre de programmes que je vais vous présenter. Et ce sont des programmes qui visent d'une part à la connaissance plus fine de la réalité de la classe de français et de son environnement, et d'autre part à la mise en place d'actions de formation. Voilà, donc si vous voulez, c'est un peu le point de vue fédératif que je vais vous présenter ici, en essayant de montrer comment il y a une cohérence quand même entre tout ce que nous avons essayé de faire depuis plusieurs années. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà. Pour ce qui concerne la formation initiale et continue des professeurs de français, je viens de vous dire, c'est vraiment une préoccupation forte de la fédération, sachant que nous n'avons pas beaucoup de prise sur la formation initiale, qui dépend pour l'essentiel évidemment des États, mais en revanche, sur la formation continue, nous avons, je crois, notre carte à jouer. J'ai voulu mettre dans le sous-titre « Savoir pour agir », parce que je pense que les deux choses ne se séparent pas. Je crois que les plans, les actions de formation ne peuvent pas être déconnectées d'une réflexion globale, et ni au niveau politique, ni au niveau de la réflexion didactique elle-même, mais qu'elles doivent entrer dans une cohérence. Alors, les programmes que je vais vous présenter ne sont pas présentés dans l'ordre chronologique de leur mise en place, mais j'essaye de répondre plutôt à l'idée de justement de cette cohérence d'ensemble des accompagnements. L'idée première, c'est tenter de connaître le plus précisément possible la réalité des fonctionnements, faire des états des lieux de ce qui existe. Et c'est pour ça que nous avons conçu, en collaboration avec l'Observatoire de la langue française de l'OIF, un vaste projet qui vise à croiser les données institutionnelles et celles qui viennent directement des enseignants eux-mêmes, des professeurs de français et de leurs associations, pour proposer aux décideurs politiques une vaste base de données évolutive, alors qui se traduira à la fois par l'écriture d'un livre blanc, mais aussi qui donnera en ligne sur la plateforme de la FIPF tous les renseignements que les associations voudront bien régulièrement mettre à jour sur la réalité de leur terrain. Alors, ce projet, nous l'avons fait donc avec Alexandre Wolf de l'OIF, et nous l'avons monté avec Fabienne également, et l'ensemble du bureau de la FIFF, bien sûr. In fine, l'objectif, c'est que les associations soient capables de développer plus activement une démarche de projet, de construire des plans d'action efficaces dans leur propre pays. Ce n'est pas donc d'établir un plan global à l'échelon mondial de formation, mais de tenter d'agir de la manière la plus décentralisée possible, et donc d'aider chaque association à définir des projets d'action, soit pays par pays, soit zone régionale par zone régionale. Donc, on commence par une analyse de la situation de la langue française et des systèmes éducatifs et universitaires, en intégrant au maximum les dispositifs de formation initiale et continue. Et c'est à partir de ça que les plans d'action seront constitués de manière spécifique, zone par zone. pour répondre aux besoins constatés, que ce soit la baisse ou l'augmentation des effectifs, des apprenants, le volume horaire qu'on accorde à l'enseignement, à l'apprentissage, la continuité des apprentissages, leur articulation dans les différents cycles également, l'offre qui existe en français dans le pays, de l'école de base jusqu'à l'université. L'ambition que nous avons, c'est d'aider chaque association à s'autonomiser, à s'accompagner elle-même, si on peut dire, hein, c'est-à-dire de construire son propre plan d'action. Ce livre blanc du français, il est actuellement en cours d'élaboration et nous disposons déjà d'un certain nombre d'informations actualisées sur plusieurs zones. La mieux renseignée pour le moment, c'est l'Europe centrale et orientale. Europe de l'Ouest, c'est en cours de finalisation. Océan Indien aussi, ça a été fait au début parce que c'était une zone de test pour nous. Et aussi français langue maternelle, qui est pour nous une préoccupation, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est tout à fait importante. Le travail sur l'Asie-Pacifique, sur l'Amérique et sur l'Afrique est en cours. Alors je vous ai mis là quelques rubriques sur lesquelles porte cette enquête, parmi lesquelles, évidemment, la question de la formation initiale et continue, vous le voyez au point 4, se trouve évidemment mentionnée. Alors je ne vais pas vous montrer l'ensemble du questionnaire, mais quelques éléments du questionnaire qui concernent la formation, justement ce point-là, des professeurs de français. Voilà. Donc on demande aux associations de répondre à ces questions-là. De quelle formation initiale avez-vous bénéficié? Quel est le niveau du diplôme universitaire? La question de la vie professionnelle aussi est tout à fait importante. Combien de temps faut-il pour être, par exemple, titularisé dans la fonction publique? Est-ce que les enseignants peuvent bénéficier de formation continue, oui ou non? Et surtout, très vite, on essaye d'embrayer sur le rôle de l'association dans cette affaire-là. C'est-à-dire, on pose, si vous voulez, le début, c'est pour que on prenne vraiment conscience de ce qui se passe. Et puis, tout de suite, on va dire, bon, est-ce que vous êtes en mesure d'organiser éventuellement des sessions de formation continue, oui ou non? Et la question, évidemment, qui vient après, c'est est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous êtes désireux vous-même de vous lancer dans ce genre de choses? Bon, c'est pas aussi évident que ça, parce que là, ça met, si vous voulez, chaque association face à ses responsabilités, face à elle-même, en disant est-ce que je veux vraiment faire ça? Et si je veux le faire, dans quoi je vais m'engager, quoi, en quelque sorte, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être qu'il y a déjà de l'existant. Est-ce que votre association a déjà organisé des sessions de formation, oui ou non? Est-ce qu'il y a, vous avez des exemples sur ça? Est-ce qu'il il y a par ailleurs, à côté de vous, des écoles, des instituts, des départements sur lesquels vous pouvez vous appuyer, hein, pour faire ce genre de choses? Alors si ça existe... non, ce n'est pas la bonne flèche, c'est celle-là... On demande donc un petit tableau qui permet de dire voilà quels sont les effectifs dans les années qui sont concernées, quelles sont les écoles qui font ça, est-ce que vous avez fait quelque chose? Alors voilà, l'idée c'est qu'est-ce que c'est pas seulement une recension de l'existant en matière de formation, mais déjà une première évaluation de dans quelle mesure chaque association est déjà impliquée dans la formation continue ou bien compte éventuellement s'y impliquer. Alors ça, c'est vraiment un énorme travail qui est en cours. Ça doit durer, en principe, jusqu'à la fin de 2015. On doit être, je pense, en possession de tous les renseignements à ce moment-là. On demande aux associations de mettre en ligne le résultat de leur recherche sur le site qui leur est dédié sur la plateforme de la fédération. Et si par hasard il rencontre des difficultés pour ça, ben, il y a Fanny, Diego qui sont là pour leur donner un coup de main. Voilà, je pense que normalement, dans la fin de l'année prochaine, on devrait avoir cette base de données qui sera pas seulement donc imprimée pour les politiques, mais qui sera aussi constamment à remettre à jour. Voilà, ça c'est le premier grand projet. C'est le dernier qui est chronologiquement mis en place par la fédération, mais c'est peut-être celui qui sera le plus global. Je pense qu'il va un petit peu aussi synthétiser l'ensemble des autres choses que nous avons faites jusqu'à présent. Alors, Abdoulaye Issek en a parlé il y a un instant, hein, donc je lui ai dit que j'avais prévu de moi aussi de dire quelque chose sur ce projet de professionnalisation des associations. Il l'a présenté d'ailleurs à Dakar à l'occasion du 50e anniversaire du Centre de linguistique appliquée de Dakar avec notre ancienne secrétaire générale Madeleine Rohl-Boumlik. Ils ont présenté ce projet là-bas et qui, vous allez voir, un projet qui marche bien et qui a déjà donné de bons résultats. On va dire que le livre blanc, si vous voulez, en quelque sorte, c'est une présentation un petit peu en amont des actions qui seront à venir, hein, pour accompagner les changements professionnels des professeurs de français par la prise en compte de leur environnement professionnel et des conditions dans lesquelles ils exercent. En fait, j'allais presque dire, on est en train de préparer le terrain pour que l'équipe qui nous succédera en 2016 ait quelque chose de solide sur quoi s'appuyer pour la suite de son travail fédératif. Ce que nous voulons avec ça, c'est que ça ne soit pas seulement le dire institutionnel qui soit pris en compte et qui serve seulement de référence aux aménagements souhaitables, mais la parole des professeurs de français eux-mêmes. Moi, je crois beaucoup à la démocratie ascendante pour ce genre de choses également. Mais nous avons engagé une autre action, toujours en partenariat avec l'OIF d'ailleurs, pour une formation décentralisée des professeurs de français dans la zone d'intervention de l'OIF. Ce projet est parti du constat que les actions de formation propres à l'OIF, que vous pouvez trouver sur leur site facilement, projet Élan, le projet IFADEM, que bon, beaucoup de vous connaissent bien sûr ici, sont des projets qui visent l'enseignement primaire pour l'essentiel, et qu'à l'autre bout de la chaîne, si on peut dire, bien, il y a l'AUF qui s'occupe de tout ce qui est universitaire. Mais entre les deux, je crois que le maillon faible de la formation, c'est vraiment le collège et le lycée. Hein ? Et il se trouve que pour nous, à la Fédération, c'est là que se trouve l'essentiel de nos adhérents. L'essentiel de nos collègues associés sont des gens qui enseignent dans les collèges et dans les lycées. Et donc, on doit avoir une attention particulière pour eux, puisque, bien sûr, la formation de base, c'est fondamental, et l'OIF a tout à fait raison de s'en occuper. L'AUF est dans son rôle de s'occuper de l'université. Bah, il faut bien que nous pensions aussi au troisième segment. Hein. Quels sont les objectifs et les étapes de ce projet? Alors, il s'appelle le PEF, c'est-à-dire Professionnalisation des enseignants de français. C'est un projet qui a pour finalité d'aider les associations à optimiser leur expertise dans le domaine du français en formant en leur sein une équipe de formateurs experts. Complémentairement à cette démarche de formation, nous avons mené un petit audit du français dans le pays de l'association. Et en fait, c'est ce travail d'audit qui a été fait à ces endroits-là qui nous a vraiment motivés pour le faire à plus large échelle avec le projet du livre blanc, si vous voulez. Ça, on a vu que c'était vraiment important de faire ça pour prévoir les formations dans les pays concernés. Et donc, on s'est dit, mais finalement, il faut aussi l'étendre beaucoup plus largement que sur la zone OIF seulement. Il fallait en essayer, avec cette petite audite, de faire apparaître les réalités de l'apprentissage et de la pratique du français, et aussi de dresser les grandes lignes de la formation initiale et continue qui permettent son enseignement. Alors, pour chacune des associations concernées, le projet PEF s'est déroulé de la manière suivante. Première étape, c'est la formation d'une vingtaine de professeurs de français à l'ingénierie de formation dans le pays même de l'association, c'est-à-dire in situ. On n'a pas fait venir les gens en France ou ailleurs, on a dit non, on va le faire à l'endroit même où ils travaillent. Une association participe au projet lorsqu'elle s'implique elle-même. C'est-à-dire qu'elle a pu réunir sur place toutes les conditions logistiques nécessaires à la formation, une salle de formation, régler la question des déplacements, de l'hébergement, de la restauration des participants. Ça, c'est le rôle de l'association avant. C'est-à-dire une association qui dit « moi, je veux participer à ça », on dit « ok, mais régler ça, et après, on fait le travail avec vous ». Donc, mise en place des conditions de la formation, les partenariats financiers, recherche de fonds, pour que cette première formation à l'ingénierie de la formation puisse avoir lieu. Et vous voyez que, en quelque sorte, si je peux dire, c'est de la pédagogie actionnelle, quoi. On est déjà dans l'action avant même en même temps que la formation. À l'issue de cette première étape, le formateur FIPF responsable de l'association concernée a identifié une équipe d'environ 6 professeurs parmi ces 20 qui sont susceptibles de devenir des formateurs experts de la FIPF une fois qu'ils auront été labellisés. Alors j'en profite pour rendre hommage vraiment aux collègues de la FIPF qui font ça qui travaille à fond sur ces questions-là. C'est Abdelkrim Kaboub, que vous connaissez, qui est maître assistant à l'ENS d'Alger, Jean-Paul Bazaille, qui est l'ancien directeur adjoint du CLA de Besançon, qui nous a accompagnés longtemps sur ce projet-là, Marc Debonneau aussi, maître de conférence à l'université de Tours, et par chance, Madeleine Rollboumlik, qui est notre ancienne secrétaire générale, veut bien continuer à s'occuper de ça aussi. Donc voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une formation didactique en ligne. Les futurs formateurs experts FIPF doivent suivre obligatoirement 3 modules de formation tutorés et 3 modules facultatifs qu'ils peuvent choisir dans une liste de 15 modules de formation qui sont en ligne sur notre plateforme. Donc voilà, il y a une quinzaine de collègues qui ont écrit ces cours et qui servent de tuteurs à un certain nombre de collègues, donc 6 par association, qui suivent ces cours-là, et qui doivent en suivre 3 obligatoirement et 3 de manière plus facultative. Bien entendu, l'ensemble des cours leur est ouvert. Ils ne sont pas du tout contraints à s'arrêter là. Si ça les intéresse, et souvent c'est le cas, ils vont voir aussi ailleurs ce qui se passe. Depuis octobre 2014, j'espère que je ne me trompe pas. Vous êtes en cours. Bon. Normalement, au 1er octobre 2014, mais notre plateforme est encore en rénovation, les modules sont en libre accès en mode non tutoré à tous les membres du réseau de la FIPF. C'est-à-dire que si vous êtes membre d'une association FIPF, vous pouvez obtenir un mot de passe de votre association et vous pouvez lire ces cours, les utiliser pour votre propre formation continue. Ça paraît rien, mais c'est tout à fait considérable ce qui a été fait là, comme travail. C'est tout à fait considérable. Un appui à la formation didactique également a consisté en une dotation à chaque association concernée d'un fonds documentaire d'ouvrages de référence d'une valeur d'environ 5 000 euros. Donc, oui, je veux dire, c'est pas un petit projet, c'est vraiment quelque chose de lourd. Troisième étape, c'est l'exercice pratique sur le terrain. Il faut mettre en pratique cette formation à l'ingénierie de la formation. Et pour chaque équipe de futurs experts, il faut réaliser un certain nombre de tâches que je vous ai mises là sur la diapositive. C'est l'identification du public, cible bien sûr, l'audit du milieu professionnel de ce public pour construire un référentiel de compétences, élaborer un plan de formation, mettre en place cette formation avec le lieu, le budget, etc. Réaliser la formation sous le contrôle d'un jury local. Et enfin, bien sûr, l'évaluation de la tâche. Le suivi de cette troisième étape est assuré par l'équipe de formation FIPF dont je vous ai donné les noms tout à l'heure. Et chaque équipe qui est en formation doit rendre compte de l'avancement de ses travaux, envoyer régulièrement un compte-rendu pour valider les étapes qui sont en cours. Et lorsque tout est prêt et validé, le jury local est mis en place et la formation est réalisée. Ce n'est que lorsque cette formation aura été réalisée les experts seront labellisés, en quelque sorte eux-mêmes, ils pourront se prévaloir du titre d'expert de la FIPF. Et du coup, ils seront à même de pouvoir intervenir au nom de leur association, au niveau local, et peut-être même régional ou international, selon les besoins du réseau FIPF. Donc l'idée, c'est de former des formateurs dans les pays eux-mêmes, pour qu'ils puissent non seulement intervenir là où ils sont, mais également dans leur région, et plus si besoin. Alors, quels sont les résultats actuels et les extensions possibles de ce projet? Jusqu'à présent, nous avons 26 associations qui ont participé au projet, tel qu'il a été conçu au départ. Oui, j'aurais dû vous mettre ça peut-être sur une diapo, mais je ne l'ai pas fait. Albanie, Arménie, Bénin, Bulgarie, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Égypte, Gabon, Guinée-Bissau, île Maurice, Mali, Mauritanie, Moldavie, Niger, Macédoine, RDC, Roumanie, Sénégal, Slovénie, Tunisie. Bon. Et du coup, le succès de cette formation a été tel que un certain nombre d'associations, parce qu'il a fallu évidemment mettre ça dans le temps, on ne pouvait pas tout faire la même année, mais il y a des pays qui ont été très pressés de s'y mettre, par exemple la Grèce, qui était tout à fait passionnée par ce projet, et en collaboration avec l'Institut français donc, et l'ambassade de France en Grèce, eh bien, ils ont mis en place un projet qui est calqué, quoi, en quelque sorte, si vous voulez, sur ça. Et nous, on est très contents parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur ce genre de choses. Plus il y a d'initiatives de ce genre-là qui se font, et plus on est contents. J'aurais dû aller les voir au début septembre. Justement, malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais je le ferai parce que je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est-à-dire les gens se disent « Ah ben tiens, voilà, il y a un système qui marche bien, je me l'approprie et puis je le fais fonctionner. » Au total, quand même, 455 professeurs, 455 professeurs ont suivi à ce jour la formation à l'ingénierie de formation, c'est-à-dire la première étape, et nous allons en labelliser à peu près 150 à l'issue de la formation. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une seule association qui a réussi toutes les étapes. Bon, Abdoulaye est là, c'est l'association sénégalaise. Hein, félicitations, vous êtes les premiers arrivés au but. Alors, on a vu avec ça apparaître évidemment une demande extraordinaire quoi, de formation. Hein. Les profs de français sont demandeurs de ça. Hein, vraiment, c'est pas des gens qui restent dans leur coin en se disant bon, je laisse tomber la pluie. Non, ils sont demandeurs. Et alors, on a décidé de. Je suis en train de perdre mon nœud papillon, dis donc. Ah oui, tiens, bon. C'est fou, je vais me sentir tout nu, là, d'un coup. Bon, allez. Allez, je vais vous le mettre là. Parce que je sens que vous en serez trop déçus. Sinon, bah oui, je perds des morceaux. Je pars en morceaux. Bon, c'est terrible. Hein. Alors, c'est l'enthousiasme. On a donc décidé de renforcer les compétences d'une vingtaine parmi ces 150 collègues là qui auront été labellisés pour qu'ils puissent renforcer la petite équipe FIPF de départ. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui, petit à petit, vont prendre le relais. Voilà. Donc, il y a des équipes qui ont été déjà constituées. Et on a déjà formé 22 experts à cette ingénierie de formation, on va dire, plus musclée. Après ces formations, eux-mêmes, hein, chaque futur expert devait réaliser un exercice pratique identique à celui qui était donné à leur équipe, mais tout seul et sur un sujet différent. Et pour ça, nous avons... proposé de le faire en 5 mois. Et parmi donc les 22, il va y en avoir 6 qui vont être des collègues qui vont être capables de démultiplier la formation à l'ingénierie de formation, monter des formations de A à Z, bien sûr, tout seul, intervenir dans le réseau de la FIPF au niveau international sur notre demande, parce que voilà ce dont ils doivent être capables à la fin de cette longue session hein, qui aura duré pour eux plusieurs années. Vous voyez que c'est ambitieux hein, comme travail. Alors, quel est l'impact du projet sur le terrain à l'heure d'aujourd'hui ? La lecture des fiches techniques de chaque association nous permet de constater que l'impact est extrêmement important parce que la formation a permis faire prendre conscience par l'association de la nécessité de se professionnaliser davantage. Ça, c'est vraiment la première chose. La possibilité de devenir elle-même un opérateur de formation des organismes locaux, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir aller... Bon, toutes les associations ont des contacts avec leur ministère de tutelle, évidemment, mais là, ils vont pouvoir y aller en disant « Mais attendez, nous, on a chez nous des gens qui sont capables de travailler pour vous et avec vous. » Également, ces collègues pourront obtenir certainement de nouvelles responsabilités au sein de leur organisme de tutelle. Ça leur a permis aussi de découvrir de nouveaux partenaires locaux, publics ou privés. Ah ben oui, voilà, je l'avais mis là, la liste des associations. Et d'obtenir, bien sûr, pour l'association, une nouvelle visibilité et, je pense, une nouvelle légitimité aussi. Parce que rien n'est pire pour une association que d'apparaître auprès d'un ministère comme simplement... des gens qui viennent quémander des fonds, si vous voulez, ou des subsides. Mais là, les associations, avec ce genre de choses, arrivent en disant bah, « Écoutez, nous, on est des partenaires, on est là pour travailler avec vous, pour vous proposer aussi notre propre expertise. » Ça, c'est donc le deuxième projet. La troisième chose que nous faisons régulièrement, beaucoup de collègues ici ont déjà participé à ça, c'est la formation de cadres associatifs, parce qu'évidemment, nous ne nous limitons pas au périmètre de l'OIF. Et chaque année, nous organisons à Paris deux stages, l'un justement pour les pays de l'OIF et l'autre en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères pour les autres pays du monde. Nous mobilisons pour ça, bien sûr, nos ressources propres, mais je dois dire aussi la participation le plus souvent gracieuse, et j'en remercie beaucoup nos partenaires de cela, de partenaires institutionnels les plus importants, le CIEP, bien entendu, qui est là à chaque formation, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, TV5 Monde, RFI, l'Alliance française, enfin bon, voilà, tous les grands partenaires, et puis des collègues quoi, qui ont une compétence particulière et qui veulent bien venir faire une conférence, venir faire une demi-journée de formation, et qui le font à titre bénévole, comme toujours. Voilà les modules que nous proposons. Alors, certains sont, comme vous voyez, des modules qui ont une vocation de prévoir, je vais dire, la relève dans les associations, hein, faire que nos collègues soient capables de gérer eux-mêmes leur association. Et puis, bien entendu, des modules qui sont plus proprement pédagogiques, certains étant assez classiques et d'autres tournés vers les technologies modernes, comme vous voyez ici. Entre 2011 et 2014, nous avons formé des membres de 85 associations, c'est-à-dire presque la moitié de notre... presque la moitié, parce qu'ils viennent de 80 pays différents, en fait. Hein. Donc, voilà, vraiment des personnes qui ont bénéficié de ça et des associations. Avec une moyenne de 16 participants par session, ça fait, 120-134 à peu près formés par ce projet-là. Généralement, des cadres un peu plus jeunes aussi, qui bon, sont là pour... souvent intégrer les équipes qui sont déjà en place dans les associations et puis à terme prendre le relais des responsabilités. Puisqu'on parle de nouvelles technologies, je voudrais quand même rappeler que nous ne faisons pas que des stages de formation. Je n'aurai pas le temps de parler de nos publications, bien entendu, qui sont des publications toujours tournées vers la formation, que ce soit le français dans le monde, recherche et application, dialogue et culture, etc. Mais aussi, puisque Fanny Cablan est là, elle est toujours là ou elle n'est pas ? Oui, elle est là. Voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur francparler-oif.org, ben, c'est à elle qu'il faut lui demander, puisque c'est elle qui s'en occupe au quotidien. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment la plateforme de formation, j'allais dire pédagogique, hein, des professeurs de français, encore une fois en partenariat avec l'OIF, et qui est entièrement consacré à l'enseignement du français dans le monde, avec trois axes essentiels, un axe éducatif, un axe culturel, bien sûr, et aussi un axe numérique. Ça, c'est évidemment dans le prolongement du... ce que nous avons dit ce matin avec Manuela. Francparler-oif.org travaille sur le renforcement de l'enseignement et des cultures francophones au sein de la classe. Évidemment, ce qu'on trouve là sur ce site, mais pour beaucoup, vous le connaissez, j'en suis sûr, ce sont des fiches pédagogiques, des ressources pédagogiques, des sitographies, des dossiers thématiques gratuits, bien sûr, encore une fois, et libres de droit. Alors, je sais bien que je suis d'accord avec Manuela pour dire que l'enseignement est devenu un marché. Mais notre démarche à nous, c'est de nous inscrire là-dedans en promouvant toujours nos valeurs fondamentales, hein, qui sont celles de la solidarité des enseignants et de la mutualisation. Voilà. Nous travaillons avec FPO, bien sûr, sur la formation continue des enseignants, en offrant des documents didactiques de référence, des articles, des entretiens, des fiches d'auto-formation aussi. Voilà. Alors, je voudrais aussi poser la question de l'efficacité réellement de la formation continue, parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de ce que nous faisons de si merveilleusement bien à la FIPF. Il y a tant de choses que nous aimerions faire aussi, que soit nous ne pouvons pas faire par manque de moyens ou de personnes, mais aussi peut-être par manque de capacités ou d'idées nouvelles. Les séminaires comme celui-là sont là pour les faire émerger, justement. Mais nous avons fait ces dernières années une recherche qu'on résume généralement sous le nom de CECA, c'est-à-dire culture d'enseignement et culture d'apprentissage, qui s'est posé la question de l'efficacité de la formation initiale et de la formation continue des professeurs. Vous voyez, cet effort de formation continue collective, initié par les profs de français eux-mêmes, hein, que je viens de vous présenter, c'est très considérable et ça s'ajoute aux offres de formation qui existent, bien sûr, qui sont proposées par des organismes, ici le CIEP Belk, bien entendu, l'Institut français, l'AFPIF, la CCIP, bien sûr. Les formations initiales ont fortement évolué. Manuela en a parlé aussi ce matin. Et l'initiative de la SDIF de faire ce recensement est une bonne initiative, hein, pour essayer de savoir un petit peu plus sur comment on forme les professeurs de français langue étrangère, au moins en France, mais c'est sûrement appelé à une extension plus grande. On s'est quand même posé, je veux dire, ça fait, j'ose plus le dire combien d'années, que je fais de la formation de professeurs, que ce soit en initial ou en continu, et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui passe véritablement de ça dans les classes, au bout du compte. Et cette recherche, qui s'appelle en réalité Langue française, diversité culturelle et linguistique, culture d'enseignement et culture d'apprentissage, a tenté d'en savoir un peu plus. Et je vais reprendre ici les éléments d'un travail que Patrick Chardonnet et moi-même avons fait pour l'OIF l'année dernière. Vous pouvez trouver d'ailleurs ce compte-rendu dans l'état de la francophonie 2014, hein, qui a été publié, qui est sorti ce mois-ci, chez Nathan, je crois. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne savait rien, ou pas grand-chose, de ce qui se passait réellement dans les classes de français proprement dites. Et donc, on s'était donné comme objectif de pallier ce manque de connaissances, parce que ça nous a paru fondamental pour la compréhension du comportement réel des enseignants du point de vue de leur action pédagogique. Et le programme s'est déroulé entre 2008 et 2013 grâce à un partenariat. Encore une fois, nous, on travaille toujours en partenariat, hein, enfin, pour l'essentiel. On essaie toujours d'impliquer des structures francophones dans notre action. Là, c'est un partenariat avec l'AUF que nous avons mené. Nous avons, par le biais de l'ASDIFL dans un premier temps, travaillé avec le CRAPEL de Nancy, qui est un laboratoire de recherche pédagogique et didactique bien connu, pour élaborer le protocole de recherche avec un conseil scientifique qui était composé donc de collègues du CRAPEL, je cite avec grand plaisir, Emmanuel Carrette et Francis Carton pour le CRAPEL, Abdelouad Mabrour de l'université d'El Jadida, Patrick Chardonnet, bien sûr, pour l'AUF, Monica Vlad de Constanța en Roumanie, Pierre Dumont des Antilles-Guyane et moi-même pour Nice et pour la FIPF. Grâce à l'AUF, une plateforme collaborative a pu être développée et mise à disposition des participants de ce projet et tous ceux qui voudraient avoir des renseignements supplémentaires, ben vous pouvez aller à l'adresse que je vous indique ici pour en savoir un peu plus. Mais je voudrais quand même vous donner l'attendu du projet tel que nous l'avions voulu. On se disait, et c'est quelque chose à laquelle moi je tiens vraiment beaucoup, hein, c'est, je dirais, l'étagement conceptuel. C'est-à-dire ne pas penser qu'en didactique, tous les éléments conceptuels sont au même plan. Je pense qu'il y a un niveau de réflexion qui doit être un niveau international, mondial. Hein, parce que la problématique enseignante et la problématique d'apprentissage, elle est commune à la profession et pour ce qui concerne l'apprentissage, à l'humanité, certainement. C'est-à-dire, ce sur quoi nous pouvons réfléchir de manière globalisée, c'est les principes organisateurs, les procédures de la réflexion théorique. Mais les conséquences méthodologiques ne doivent pas nécessairement induire la définition d'une idéologie méthodologique globalisée. Et c'est ça un petit peu, Manuela a parlé du cadre européen ce matin, elle a fait allusion à un séminaire qui s'est tenu ici même, hein, lorsque nous avons... À vrai dire, c'est moi qui ai voulu qu'on travaille sur ces questions-là. Je crois que c'était en 2007, je crois bien, sur pourquoi, comment faut-il, etc., que le CECR se mondialise tel qu'il l'a fait extrêmement rapidement, hein, au début de ce siècle. Sinon, si on propose une idéologie méthodologique globalisée, je pense que nous risquons d'arriver à des comportements qui seront insidieusement impérialistes, voire néocolonialistes. Et pour le moins, la question d'une méthodologie qui soit applicable à tous et en tout lieu mérite d'être posée. Poser la question, je crois que c'est déjà en partie y répondre, en fait. Et le fait de faire comme si ça allait de soi, qu'une seule méthodologie doit être appliquée partout et à tous, je pense que c'est un petit peu ce qu'on a laissé entendre avec le triomphe du courant communicatif et la multiplication, l'accélération des échanges, et aussi maintenant avec l'avatar du courant communicatif qui est la méthodologie, on ne dit plus méthodologie maintenant, c'est approche, mais je peux revenir sur ça si vous voulez plus précisément, actionnelle. En fait, quand on regarde les comportements des enseignants et de ceux qui apprennent, on peut penser qu'il y a derrière des discours tout à fait consensuels. Hein, quand on parle aux gens, qu'est-ce que vous faites ? Ah oui, je fais du communicatif, etc. Il y a une grande permanence dans les modalités locales, que ce soit des modalités collectives ou individuelles, d'appropriation des langues. Et là, Manuela, ce matin, parlait d'histoire aussi. Ça m'a fait penser à Fernand Braudel. C'est des grandes leçons. Hein, je veux dire, il y a des vaguelettes historiques, hein, mais il y a des grands courants profonds qui sont là et qui ne vont pas disparaître comme ça. Du jour au lendemain, je crois qu'il y a une permanence quand même dans ce que fondamentalement les gens ont dans la tête pour quand il s'agit de savoir comment j'enseigne. Alors la question centrale qu'on s'est posée, c'est la suivante. Quelle est la culture d'enseignement et la culture d'apprentissage des apprenants, des enseignants, sur qui sont censés se centrer la méthodologie courante, les formations méthodologique dirigé par les institutions francophones, par l'édition également. Et la question de recherche, je vous l'ai écrite ici. Derrière les discours didactiquement corrects, comme il existe du politiquement correct, je crois qu'il y a du didactiquement correct aussi. Qu'en est-il des modalités locales, collectives, individuelles d'appropriation du français en milieu institutionnel? Quels sont les traits constants de ces courants à l'intérieur des cultures? C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu avoir simplement un projet des représentations. Comment vous vous représentez les choses? Non. C'est qu'est-ce que vous faites réellement? Alors, plus encore peut-être que l'ambition du projet, c'est l'originalité de la méthode de recherche qui a été proposée par le Conseil scientifique et par le CRAPEL, qui mérite, je crois, d'être soulignée. À la base, bien sûr, on retrouve tous les fondamentaux d'une recherche sociolinguistique et didactique, c'est-à-dire un relevé de données statistiques sur les classes, le profil des enseignants, les conditions matérielles de l'enseignement, les profils d'enseignement, etc. Et une enquête sur les langues circulantes dans l'institution scolaire et sur le rôle qu'elles y jouent. Mais le focus se fait ensuite davantage sur la classe proprement dite. Comment se répartit le travail entre l'oral et l'écrit? Quelle est la répartition des rôles entre les enseignants et les élèves dans la transmission ou dans la construction du savoir? Il s'agissait pour nous de dresser une véritable ethnologie de la classe de langue sur les critères communs en vue de la soumettre à interprétation. Première caractéristique de cette méthodologie, c'est le privilège accordé au recueil des données sur le déclaratif des discours officiels. Mais l'originalité, je crois, repose surtout sur la méthode des regards croisés pour l'interprétation des données. Il y a eu plusieurs étapes. Hein. La première, c'est une première interprétation des résultats par l'équipe locale, c'est-à-dire je filme des classes, je regarde. En fait, on a fait filmer plusieurs séances de la même classe et on n'a pas pris la première séance. On en a pris une vers la quatrième ou cinquième ou sixième au moment où les élèves font plus trop attention, quoi, si vous voulez, ni le prof, hein, à la caméra qui est là et qui les enregistre. Donc les gens commencent par se regarder. Voilà. Voilà ce que j'ai fait, c'est le principe de l'autoconfrontation. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai enseigné? Qu'est-ce que je peux dire de ça? Interprétation des résultats donc par l'équipe locale. Interprétation des données par une équipe de notre pays. C'est-à-dire j'envoie mes données, par exemple, la France, je crois, avait envoyé au Kazakhstan et en Argentine. Ça a tourné entre les trois. Hein. Comment les Kazakhs voient ça? Comment les Argentins voient ce que nous avons fait. Retour, évidemment, de ces informations. Et puis réaction de l'équipe locale à l'interprétation de ce que les collègues kazars ou argentins ont dit sur ces questions-là. Je voulais souligner également que cette recherche, elle s'est faite vraiment d'une manière totalement FIPF, c'est-à-dire que il y avait des collègues d'enseignement supérieur qui ont piloté ces choses-là, mais ils ont travaillé en osmose avec les collègues de l'enseignement secondaire qui étaient, ou de l'enseignement primaire d'ailleurs, qui étaient volontaires pour ce genre de choses. Quels sont les résultats et les retombées réelles de ça? Bon, même si on n'a pas pu développer ça à l'échelon total de la fédération, on a quand même pu avoir des résultats sur une vingtaine de pays qui ont participé à la recherche, qui est quand même pas mal. Donc Argentine, Brésil, Bulgarie, Burkina, Burundi, Canada, Espagne, France, Gabon, Indonésie, Kazakhstan, Liban, Maroc, Mexique, Ouganda, Roumanie, Russie, Tunisie, Vietnam. Bon, j'ai ça à votre disposition si vous voulez. En gros, j'allais dire que le résultat, c'est que notre hypothèse de départ a été largement confirmée. Les connaissances sur ce qui se passe réellement dans la classe de langue dans beaucoup d'endroits, sont éclairés, je crois, aujourd'hui d'un jour nouveau, et en tout cas, sont plus objectivement étayés. C'est-à-dire, c'est pas « je crois que ça se passe comme ça », c'est « non, j'ai vu que ça se passe de telle et telle manière dans ces pays-là ». Les divers rapports et commentaires des équipes ont montré la nécessité absolue de tenir compte des cultures d'enseignement et des cultures d'apprentissage locales pour la mise en place de curriculum, pour le choix des méthodologies d'enseignement du français. Et l'adoption d'un protocole commun de recherche a bien montré que la réflexion didactique doit être universelle, mais qu'il faut renoncer à cette utopie d'une méthodologie unique d'enseignement du français et du coup probablement de toute langue étrangère ou seconde, et qu'il faut proposer des solutions pédagogiques décentralisées le plus possible conformes aux attentes et aux habitudes culturelles des familles en matière d'apprentissage et d'enseignement des langues. Alors, il y a beaucoup de résultats qui sont disponibles. Nous avons pu publier à la FIPF, en collaboration avec les presses universitaires de Grenoble, 3 ouvrages que vous avez ici, et un autre avec, en collaboration avec le Gerflint sur l'Espagne. Alors, du point de vue de la classe proprement dite, cette recherche a montré que, dans la plupart des cas, les formations méthodologiques ont pu changer les discours. C'est-à-dire ce que je fais, ce que je crois faire, ce que je devrais faire peut-être, mais n'ont pas changé fondamentalement les pratiques d'enseignement, sauf dans les pays pour lesquels ces méthodologies ont été pensées et théoriquement produites. Au Canada, par exemple, et dans une moindre mesure en Europe, si vous lisez le livre de Daniel Moore et Cécile Sabatier, Une semaine en classe immersion française au Canada, vous verrez que ça fonctionne très bien. Hein, la méthode, le courant communicatif, c'est normal, ça a été pensé en Amérique du Nord au départ, ou dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que c'est tout à fait en phase avec la culture globale et la culture d'enseignement et d'apprentissage. En Europe, ça marche pas trop mal, mais avec des, on va dire, des ratés. Puis vous avez des endroits où ça marche pas, faut le dire. Hein. Les endroits où, entre la théorie et la pratique, la décontextualisation culturelle est la moindre, c'est là où ça fonctionne le mieux, évidemment. On n'est pas les seuls à avoir fait ce genre de choses. Je pense aux travaux de Béaco en 2000. Malgré ces résultats-là que nous avons publiés, donc il y a eu des colloques, il y a eu des tas d'articles qui ont été faits par des collègues qui ont participé à cette recherche, hein, déjà un peu partout, je crains bien que les tenants à tout craint de la perspective actionnelle ne prennent pas en compte le fait que le contexte d'enseignement et d'apprentissage n'offre le plus souvent que des possibilités très restreintes de son application. Et l'idée, par exemple, que l'apprenant puisse être un acteur social. Bon. Autre que celui qu'il est classiquement dans son rôle d'élève ou d'étudiant, ni surtout les habitudes culturelles d'enseignement et d'apprentissage. Voilà. Je crois que c'est bien beau de mettre des grands mots derrière les choses, mais qu'est-ce qui se passe réellement quand vous apprenez le français dans un lycée en Mongolie, par exemple, hein? Ah, nous, on a une association en Mongolie. Eh oui. Hein? Comment ça se passe en Arabie Saoudite, où il n'y a pas encore d'association, mais où nous avons changé nos statuts suffisamment pour que des groupements de professeurs ne se sentent pas isolés et viennent nous rejoindre, viennent vous rejoindre, hein, dans les rassemblements que nous faisons ou sur nos plateformes. Voilà. Alors, je voudrais conclure en rappelant 2 ou 3 éléments qui me paraissent importants dans l'accompagnement des professeurs dans l'évolution de leur métier. Je l'ai déjà dit au cours de cette intervention, et je crains bien de me rabâcher, parce que je ne sais, il n'y a pas qu'ici que je le dis, mais enfin, la répétition étant la base de la pédagogie, je vais quand même le faire. On doit penser l'évolution de manière théorique globale. On doit le faire. Mais on doit contextualiser les méthodologies. C'est une question vraiment de survie, au bout du compte, hein, de l'enseignement du français. Quand les propositions pédagogiques, les fiches pédagogiques, les sites professionnels, les méthodes de langue, tout ce que vous voulez, aussi bien faites soient-elles, et souvent elles sont très bien faites. Hein, ici, Michel, qui sait de quoi je parle en disant ça, et beaucoup d'entre vous aussi, bien sûr. Quand ces propositions-là sont coupées de leur terreau théorique par une sorte de flou méthodologique. Je disais, on parlait quand même il y a 20 ans, on parlait de méthodologie. Hein. Après, on a parlé d'approche. Maintenant, on en est à une perspective. Bon, je veux bien parler de ça en détail, hein, avec qui veut, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Je crois que dans ces cas-là, ce n'est pas étonnant de voir qu'un grand nombre d'enseignants continuent à suivre globalement ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils savent faire. Hein. Et la recherche CK a montré ça. C'est-à-dire que on a dit de certaines méthodologies qu'elles étaient trop coercitives, qu'elles étaient trop... Mais les professeurs de français... Manuela a dit quelque chose tout à fait justement. Déjà, il faut travailler sur le niveau de langue de beaucoup d'entre eux. Mais il faut aussi travailler sur leur savoir-faire professionnel et méthodologique. C'est les projets que je vous ai décrits avant travaillent sur ça. Ça veut dire que très majoritairement, ils ont besoin d'un accompagnement lourd, hein, pour l'enseignement. La perspective de cette évolution doit être envisagée de manière ascendante. Ça ne peut pas tomber des ministères, ça ne peut pas tomber d'une résolution de l'OIF ou des choses dans ce genre-là. C'est-à-dire en tenant compte fondamentalement de la parole des principaux intéressés, c'est-à-dire les enseignants eux-mêmes. Et c'est justement le rôle des associations et de la FIPF de faire émerger cette parole, de la faire entendre. Et, chers collègues, c'est à quoi nous essayons de nous employer. Merci de votre attention.